Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 23 mars 1994.
La dernière fois, nous avions essayé de comprendre dans cette réflexion sur l'éthique fondamentalement humaine. Mais c'est pas très commode de bien préciser ce niveau premier de la morale. Selon un ordre génétique, sur quoi repose l'acte moral? Et c'est juste l'inverse de ce que le pape fait dans son encyclique. À ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que tout est inversé. Il faut être intelligent pour comprendre que la même réalité peut être regardée selon un ordre génétique de l'ordre parfait ou selon un ordre de perfection. Vous restez tout de suite dans le point de vue de ce qui est le plus parfait. Qu'est-ce qui est le plus parfait en éthique? C'est la rencontre avec Jésus. Et l'éthique chrétienne, c'est le don que le Père nous fait de son Fils. Et ce don est parfait et total à la croix. L'éthique chrétienne dépend de cette sagesse de la croix. Et tout est vu dans cette lumière-là. C'est le propre de l'éthique chrétienne. Tandis qu'au contraire, au plan philosophique, on commence par voir à quel moment l'acte moral commence. Quelle est l'éclosion de l'acte moral? Mais l'éclosion de l'acte moral, ce n'est pas le petit enfant, tout petit, qui aime sa mère. Ça ne peut pas être ça, ce n'est pas conscient. Conscience de l'enfant qui aime sa mère. Hein. Vous vous rappelez? Moi, je m'en rappelle pas. Vous voyez, c'est très curieux. Tout commence par des catacombes biologiques. Prétendre que l'enfant dans le sein de sa mère a conscience, je crois que c'est une projection. Je trouve ça beaucoup plus beau qu'on est dans des catacombes. On a tous eu quelques mois de catacombes. Et ça continue après. Mais très différemment, puisque là il y a une lucarne, il fait beau, il y a le soleil. Et on commence la vie. Premier moment de votre naissance, vous vous rappelez bien, n'est-ce pas? Je me rappelle très bien, premier moment de ma naissance, le premier lever de soleil, très très bien. J'étais dans mon berceau, je n'ai rien vu, mais c'est quand même, ça a existé. Il y a eu un premier jour. Si je suis né la nuit, si je suis né le matin, de toute façon il y a eu un premier jour. Chacun d'entre nous n'a vécu un premier jour. Qu'est-ce qu'il était? Il était très conscient chez notre mère. Très peu conscient chez nous. Du moins, la plupart du temps. philosophique, j'essaie de voir à quel moment cette responsabilité a été vraiment nette. Je crois, c'est dans le choix amical. Ceci reste toujours comme un point d'interrogation. Hein. Le philosophe cherche toujours, je crois. Alors, nous avons, à partir de l'acte d'amitié, essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que l'acte moral. Un acte volontaire à l'égard d'un bien, et d'un bien qui est une fin et qui finalise toute ma vie. Nous avons, à partir de là, essayé de voir l'éclosion de ce qui est nécessaire pour que cet acte puisse être de plus en plus conscient, de plus en plus vrai. Étant donné l'imagination qui essaie tout le temps de me mettre en dehors du point de vue de la responsabilité, l'imaginaire est anti-responsable. C'est pour ça qu'on aime tellement être dans l'imaginaire. Je ne suis plus responsable. Oh, je suis emporté par un grand vent, par un cyclone. Je ne suis plus responsable. Ah oui, mais attention, attention. Alors, qu'est-ce qui est responsable? Le voisin. Il n'y a plus aucune responsabilité. Vous voyez, un monde qui est mené par l'imaginaire. Et je crois que notre monde est mené par l'imaginaire. Le démon. Ah, point de vue chrétien, je peux en parler. Le démon aime l'imaginaire. Parce que ça supprime la responsabilité. Et il règne dans l'imaginaire. Parce que la plupart des luttes sont au niveau de l'imaginaire. Il faut dépasser l'imaginaire pour acquérir les vertus. Première vertu qu'on acquiert, au point de vue moral, la prudence. Cette petite sagesse pratique. Puis on acquiert les vertus cardinales, qui sont toujours des digues contre l'imaginaire. La vertu de justice est une digue contre l'imaginaire pour redécouvrir les droits de l'autre et les droits de l'ami. Dans toute amitié, il y a l'autre. Et l'autre est distinct de moi. Et l'autre a fondamentalement des droits. Parce que l'amour d'amitié ne supprime pas l'homme. Et la justice est au niveau de l'homme, pas au niveau de l'ami, mais au niveau de l'homme. Alors on découvre la justice. Il faut des actes, il faut beaucoup d'actes, juste pour acquérir la justice. C'est une vertu très importante. Prudence, justice. Prudence, force. Prudence, tempérance. Vertu cardinale. Les vertus cardinales sont, je crois, l'œcuménisme du point de vue moral. Il y a très peu de philosophies qui rejettent les vertus cardinales. Je crois. On les comprend différemment. Un épicurien reconnaît qu'il y a des vertus. Je crois que celui qui ne reconnaît plus les vertus, il faut attendre longtemps, Freud. Mais dans l'Antiquité, tout le monde reconnaît les vertus cardinales. C'est élémentaire. Il faut l'âge moderne pour supprimer les vertus cardinales. Et dire les vertus cardinales, ah, attention, c'est dangereux. C'est un surmoi. Le surmoi de la justice. Comme on est pour le voleur. La justice est un surmoi, c'est évident. Pour un voleur, il aimerait mieux qu'il n'y ait pas de justice. Alors tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, je reviens. Mais c'est avant spontanéité. Comme si la vertu supprimait la spontanéité, alors que la vertu est la vraie vertu. Doit permettre à l'homme d'être spontané. Mais vraiment spontané, sans égocentrisme. L'égocentrisme, c'est pas du tout la spontanéité. Faut pas croire que le voleur est plus spontané que l'homme juste. Le voleur, quand je le fréquente un tout petit peu, je sais très bien qu'il n'y a plus aucune spontanéité. Il est dans l'imaginaire de ses idées. Il est dans le psychologisme de ses idées. Et nous avions vu après comment il fallait regarder quelque chose qui est quand même très important. Cette éthique personnelle, fondamentale, va tout de suite impliquer une éthique familiale. Mais de la naissance au plan philosophique, de la naissance de la famille. Puisqu'on est dans l'année de la famille, c'est très important philosophiquement de regarder à quel moment naît la vertu, naît la famille. Est-ce que la famille naît de l'amour d'amitié ou est-ce que la famille naît de l'égocentrisme? Est-ce que la famille naît de l'amour? L'utilité. C'est quand même très important, ça. C'est même capital. Surtout aujourd'hui, où au fond, au plan philosophique, il y a très peu de philosophie qui regarde la famille. C'est peut-être du reste à cause de ça qu'il n'y a plus que le point de vue psychologique qui regarde la famille. Et la psychologie ne peut pas défendre la famille. La famille naît à partir de l'amour d'amitié de l'homme et de la femme. Alors c'est ça qui est important à voir. Alors petite question qu'on me pose en fonction du cours de la dernière fois. L'amitié conjugale est-elle seule capable de fonder une communauté politique? Je dirais, avant la communauté politique, elle fonde la famille. Et la famille est le fondement de la communauté politique. Hein? Respectez les métaxus. Qu'en est-il de l'amitié contemplative et de l'amitié qui peut exister entre deux artistes? Pourquoi seule une fécondité procréative peut-elle faire d'une amitié le fondement de la communauté politique? Justement parce que elle implique la fécondité procréative. Alors, on va essayer de comprendre ça. C'est important, parce que c'est le grand problème d'aujourd'hui. Le grand problème d'aujourd'hui, une amitié entre deux artistes a la même valeur que l'amitié entre l'homme et la femme qui font un foyer. L'amitié entre deux contemplatifs, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Alors, laissons ça de côté, on y reviendra après. Tandis que l'amitié entre deux artistes, ah oui, ça, c'est tout à fait à l'ordre du jour. Alors on verra le sculpteur et le peintre, ou le sculpteur et le musicien, peu importe, ou bien deux sculpteurs. Est-ce que l'amitié entre deux artistes peut fonder la famille? Non. Parce qu'il faudra que les deux meurent en même temps. Il n'y a pas de fécondité. Ah oui, mais on pourra mettre l'adoption. Ces deux artistes aimeraient bien d'avoir un petit enfant. Pas deux, mais d'à côté. Alors, l'adoption. Alors, est-ce que l'adoption peut fonder la famille? Oui, toutes ces questions qui sont actuelles et qui se disputent dans des communautés politiques, au Parlement, et personne ne sait répondre, parce qu'aucun n'est philosophe. Alors, il regarde l'état actuel, les statistiques, combien d'enfants d'adopter, combien d'enfants qui sont vraiment nés du foyer. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux d'adopter quelqu'un qu'un enfant du foyer? Parce que l'élément enfant spirituel est premier dans l'adoption. Tandis que dans la procréation, l'élément charnel est premier. Et l'élément charnel est source de toutes les divisions. Alors purifions-nous et n'ayons plus que des enfants adoptés. C'est tellement plus simple. C'est tellement mieux. C'est tellement plus spirituel. Au moins, on aura une famille spirituelle. Je plaide la cause. Dans les de l'autre côté, on sait que l'élément charnel est si lourd à spiritualiser. La sexualité, c'est si difficile, c'est si lourd, c'est comme avec l'animal. Alors, il y a d'une certaine manière des familles royales chez les animaux. Parce que c'est le lion qui vit en famille. Et c'est très curieux de voir la famille lion. C'est extraordinaire. Et dans la famille lion, la mère, la femelle joue un rôle extraordinaire. C'est elle qui chasse. Et le démon, et le roi est un roi fainéant. Source de cette race humaine alors disparaît. Un pays disparaît lorsqu'il n'y a plus de mort que de naissance. Et c'est le danger mortel. C'est un pays qui disparaît, ça. Et c'est un poids terrible, qui est quelque chose d'affolant. C'est la première considération que l'homme politique devrait faire. Tout le reste est secondaire. Ça, c'est premier, c'est fondamental. Oui, alors vous touchez tout de suite à ce fait que la communauté pourrait être une communauté naturelle et pas artificielle. Elle repose sur l'amour conjugal qui implique la fécondité. Et donc, qui implique que l'espèce humaine continue. La survie de l'espèce, c'est la famille. Et ça, c'est naturel. On ne peut pas le remplacer. On va essayer, on essaie par tous les moyens de le remplacer. C'est évident. C'est très curieux du reste. Hein. Cette espèce de lutte contre la nature. Pour essayer de faire tout artificiel. Comme si tout artificiel serait supérieur à la nature. D'où ça vient, ça? Il faut quand même essayer de comprendre d'où ça vient. Cette fureur contre la nature. Vous voyez, je crois que Nietzsche, qui n'est pas bête du tout, Nietzsche met le doigt là-dessus. Ce qui est naturel parle de Dieu. Ce qui est artificiel parle de l'homme. Et donc, il y a une opposition radicale, fondamentale, d'orgueil de l'homme qui veut son autonomie parfaite. Et donc, qui veut tout faire et qui n'accepte plus de dépendre de Dieu. Et donc, quand l'homme veut supprimer la famille, qui est de droit naturel, qui a un enracinement dans la nature, quand l'homme veut supprimer la famille pour mettre un couple qui repose uniquement sur l'amour d'amitié et qui veut, par le point de vue de l'accueil, par le point de vue de l'adoption, prétendre lutter contre la mort, en réalité, tout cela repose sur un orgueil humain qui veut une autonomie totale. Et cela est l'orgueil de l'homme qui, en réalité, par son orgueil, détruit l'homme. C'est le primat de l'individu contre la nature. Et c'est, en définitive, vouloir garder une autonomie farouche contre Dieu. On a peur de la nature, parce que la nature, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Et on voudrait partout trouver quelque chose qui vient de l'homme et qui est fait par l'homme. On voudrait ça. Et en faisant ça, on détruit l'individu, puisque l'individu repose sur la nature. Mais je crois qu'il y a là quelque chose qui est très très radical et qu'on voit aujourd'hui. Alors quand on prétend que c'est plus spirituel, non. C'est l'orgueil. Est-ce que l'orgueil est plus spirituel que la nature? La nature qui dépend de la sagesse de Dieu. Et l'orgueil qui dépend de l'individu. Et qui est l'exaltation de l'individu. Et qui veut être premier. Qui veut qu'il n'y ait rien avant lui. On est dans l'erreur. L'orgueil s'appuie sur un mensonge, sur un manque de vérité. Et donc, puisque ça s'appuie sur un manque de vérité, sur un mensonge, sur donc l'imagination, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Au point de vue de la réalité, évidemment, il faut accepter. Alors, réaliste de l'être. La réalité implique la nature, et la réalité implique que la nature est antérieure à l'individu. Chacun d'entre nous, nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose qui a existé avant nous, et que nous-mêmes, nous sommes toujours en face de quelque chose qui a existé avant nous, la nature. C'est pour ça que la nature appelle Dieu, tandis que ce qui est artificiel n'appelle que l'homme. Et l'homme se trouve chez lui quand il n'y a plus que l'homme, soi-disant. Est-ce que l'homme n'est pas beaucoup plus chez lui quand il est dans la vérité et qu'il reconnaît que l'homme dépend d'une réalité antérieure à l'homme? Vous voyez, l'athéisme, la négation de Dieu, au terme, aboutit à l'exaltation de l'individu. Et en réalité, c'est l'exaltation de l'individu qui dépasse le point de vue de la nature humaine. Et qui veut dépasser le point de vue de la nature humaine, donc de la réalité. Donc, dans la réalité, dans la vérité, la famille repose sur l'amour de l'homme et de la femme, fondant un foyer pour éduquer des enfants, pour la procréation et ensuite éduquer des enfants. Donc, procréation et éducation donnent le sens profond à la famille, mais en comprenant que cette fécondité repose sur l'amour et que cette éducation repose sur l'amour, sur un amour qui est antérieur, un amour personnel, individuel, qui est antérieur, mais inséparable de la fécondité, inséparable de la création. Et c'est par là qu'on découvre comment cette morale fondamentalement humaine implique l'amour conjugal qui fonde la famille. Et la famille est elle-même fondement de la communauté politique. Alors pourquoi la famille est-elle fondement de la communauté politique? C'est parce que grâce à la famille, il y a survie de l'espèce. Et ce n'est pas des communautés uniquement d'amitié qui adoptent, qui sont fondements de la communauté politique. Pourquoi? Parce que l'adoption présuppose quelque chose d'antérieur à l'adoption. Et donc, si elle présuppose quelque chose d'antérieur à l'adoption, il faut regarder la source. Dire tout simplement que le progrès, puisque c'est au nom du progrès qu'on dit tout ça, le progrès psychologique, le progrès humain, consiste à séparer la fécondité de l'éducation. Un état parfaitement social, parfaitement territoires socialistes, les kibboutz religieux. Et c'est curieux, c'est que l'aspect socialiste ne s'oppose pas premièrement à l'aspect religieux. Il s'oppose premièrement au lien de nécessité entre procréation et éducation. C'est là où, de fait, on touche ce qui caractérise l'aspect socialiste, l'idéologie socialiste. L'État a un droit absolu sur l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de former des citoyens plutôt que des hommes. On met le citoyen avant l'homme. Si on met le citoyen avant l'homme, on aboutit à l'idéologie socialiste. L'idéologie socialiste poussée à l'extrême, dans ce qu'elle a de parfait. Alors, ils ont essayé. Au bout de 15 ans, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas. Bon, ça n'explique pas tout à ça. Parce qu'on peut dire, attention, l'adoption peut être l'adoption d'un foyer. Et non pas l'adoption qui se fait au niveau politique. L'adoption au niveau politique, c'est de prendre l'enfant au foyer et d'éduquer tous les petits citoyens par des éducatrices qui ne sont pas mères, qui sont des éducatrices d'État et qui éduquent l'enfant pour en faire un citoyen parfait. C'est très curieux, hein, cette idée-là, qui est au fond très, très forte. Alors, on a vu que cette adoption étatique socialiste faisait que l'enfant ne pouvait pas se développer au point de vue intellectuel aussi rapidement que dans un foyer normal. Intéressant à noter. La famille est source d'amour. L'État n'est pas source d'amour. Première chose à constater. L'État n'est pas source d'amour. L'État est avant tout ce qui doit permettre le point de vue économique de se faire dans une réalisation la plus parfaite et la plus efficace possible. Mais l'État n'est pas source d'amour. Et ces enfants ont manqué d'amour. Et parce qu'ils ont manqué d'amour, ils ont été moins. Leur intelligence n'a pas pu se développer autant. Bon, alors, si je remplace cette éducation socialiste et étatique par un foyer, c'est-à-dire tout simplement une communauté de deux, peu importe que ce soit homme et femme, de deux, dans l'ordre de l'amitié, l'amitié des artistes. Après tout, deux artistes qui s'aiment peuvent être un foyer d'amour et adopter un enfant. Et cet enfant sera dans un milieu très aimant, puisque cette amitié peut avoir une qualité énorme. Mais c'est ce que certains défendent aujourd'hui, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire philosophiquement au point de vue de la foi? On comprend très bien ce qu'on dit. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'au point de vue de l'intelligence humaine, au point de vue politique, au point de vue philosophique, je puisse montrer que c'est faux. Alors, c'est très vrai que un amour de deux hommes, de deux femmes, artistes, intelligents, au niveau passion, au niveau imaginatif, est-ce qu'il peut être aussi grand au niveau du réalisme qui implique une amitié de choix entre deux amis? Alors, je dirais premièrement, quand l'enfant est vraiment celui qui est l'enfant du père et de la mère. Il y a une connaturalité dans l'ordre sensible, dans l'ordre physique, biologique, qui est fondamentale. Génétiquement, l'enfant est d'abord uni biologiquement à sa source. C'est la suppression de ce premier moment. Comme si ce premier moment pouvait être remplacé. Oui, la couveuse électrique peut remplacer momentanément le point de vue du sein maternel de la mère. Quand l'embryon est suffisamment développé, on n'est pas encore arrivé à le remplacer complètement. On voudrait bien, si on arrivait à le remplacer complètement, ce serait la victoire de l'art sur la nature. On n'est pas encore arrivé. C'est la cause matérielle. La terre vient au service de la femme. La causalité matérielle et maternelle, elle est substantielle. Et donc elle ne peut pas être remplacée par quelque chose d'artificiel. Et on n'arrivera jamais. Parce que c'est une causalité substantielle. Évidemment, un savant ne peut pas dire ça. Un pur savant, positiviste. Un artiste ne peut pas dire ça. Seul le philosophe peut le dire. La maternité humaine à quelque chose de substantiel. Or, on n'est pas encore arrivé à faire des substances artificielles. On cherche. On n'est pas encore arrivé. L'art reste au niveau de la relation, mais pas au niveau de la substance. Et donc, on peut se servir de la substance jusqu'à un certain degré, puis après l'art prend. Quand, de fait, la cause matérielle, la cause maternelle s'arrête. Arrivé à un certain développement de l'embryon, on peut sauver l'enfant. On peut le faire, en quelque sorte, passer d'un milieu purement naturel et maternel à un milieu artificiel. Et on ne peut pas, dès le point de départ, on n'est pas encore arrivé. On attend. Je dis, pourquoi attendre indéfiniment? Philosophiquement, c'est impossible. La causalité matérielle est substantielle. Alors on n'arrivera jamais à faire une substance artificielle. Oui, la terre vient au service de la femme. Ça, c'est une parole de l'écriture. Philosophiquement, je ne peux pas m'en servir. Je peux simplement dire, il y a là quelque chose de très mystérieux dans une tradition chrétienne, dans l'Apocalypse. Cette phrase dans l'Apocalypse est très très forte. La terre vient au secours de la femme. Et si vous regardez bien, c'est un moment très important et ultime. C'est quand le dragon poursuit la femme. Et veut lui faire croire qu'il est source de vie. De lui jaillit un fleuve d'eau vive. Donc il veut faire croire à la femme qu'il est source de vie. Et qu'il n'est pas source de vie. Il n'est pas. Tout ce que fait le démon est artificiel. Il n'est pas naturel. Le démon n'est pas créateur. Il n'est pas source de vie. Mais il est source d'art. cette affirmation, l'intérêt vient au service de la femme. J'allais dire, l'intérêt vient au service de la mère. On devrait dire ça, mais la femme, c'est la mère, selon l'Apocalypse. C'est vraiment la mère. C'est la source de fécondité. Et la terre vient au service de la fécondité. Parce que la terre fait justement ces catacombes maternelles qui sauvegardent la vie. Et qui sauvegardent la vie et qu'on ne peut pas remplacer. Alors on peut croire qu'on y arrivera. Or on n'a pas le droit d'exposer la vie humaine à ces expériences. Puisque l'homme n'est pas le maître de la vie. Si l'homme était le maître de la vie, il pourrait faire ses expériences. Mais comme il n'est pas le maître de la vie, il doit respecter ce dont il n'est pas le maître. C'est la justice élémentaire. La justice élémentaire, c'est de respecter le tout petit, l'embryon. C'est de respecter le premier moment de la conception. Et on n'a pas le droit de manipuler comme on veut, puisque ce n'est pas nous qui sommes source de la vie. Vous voyez, là, on touche quelque chose d'extrêmement radical, et on voit que l'orgueil humain, aujourd'hui, va jusque-là. On voudrait être maître de la conception et de ce développement du tout petit dès le point de départ de sa conception. Et on n'est pas maître de l'embryon, du premier moment de la conception. On doit la respecter et respecter ses exigences de développement. Sont quelque chose de très radical et qui ne peuvent provenir que de la mère. Cause naturelle qui demande d'être respectée parce qu'elle est substantielle. Je crois que c'est ça qu'on doit dire aujourd'hui. Et on doit essayer d'avoir l'évidence philosophique. On peut l'avoir. Pour montrer que là, il y a une barrière à l'orgueil humain. L'orgueil humain peut arriver à supprimer l'espèce humaine. Il n'y aura pas de déluge. Encore une nouvelle tradition religieuse. Il n'y aura pas de déluge. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y aura pas de déluge? C'est que Dieu remet à l'homme la responsabilité de la continuité, ou au contraire de l'arrêt de l'espèce humaine. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Nous assistons à ça. L'homme arrive par sa technique, par sa science, à devenir le maître, du moins il le croit, de l'espèce humaine. Et on dit, mais pourquoi Dieu ne ferait pas de déluge, ne fera plus de déluge. C'est des paroles extrêmement sérieuses.